Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar.
Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission pour débattre ensemble de la situation. Au Mali, le pays est toujours sous le coup des sanctions prises par la CEDEAO après le coup d'État du 18 août. Pourtant, en fin de semaine dernière, Bamako attendait de pied ferme la bonne nouvelle après avoir donné plusieurs gages de bonne volonté. D'abord, la publication au journal officiel de la charte de la transition. C'était jeudi, c'était une demande de l'organisation ouest-africaine. Autre demande que le vice-président, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta, ne soit pas autorisé à assurer l'intérim de la présidence en cas de vacance du pouvoir, demande elle aussi satisfaite. Alors, attente, impatience même à Bamako. La décision, manifestement, est encore en discussion. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, a fait le voyage d'Accra pour y rencontrer le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui est le président en exercice de la CEDEAO. Alors, que vous inspire cette situation? Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont-ils raison de mettre la pression sur la pour une transition irréprochable? Quelles sont, enfin, pour vous qui vivez au Mali, les conséquences de ces sanctions sur le quotidien? Vous nous appelez d'ici 11h et on accueille tout de suite Fousseini. Bonjour Fousseini.
Oui, bonjour Nathalie, comment vous allez?
Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Vous nous appelez de Koulikoro et vous avez dit au Standard en avoir assez de ce jeu du chat et de la souris.
Oui, tout à fait. Je crois que la junte et la CEDEAO essaient chacun de faire prévaloir leur vue sur la transition malienne, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Parce que la CEDEAO a besoin de clarté, la junte a besoin d'assurance. Donc, ce qui nous conduit un peu dans ce jeu de chat à la souris.
En fait, vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'une condition est remplie, d'autres viennent et que la CEDEAO, finalement, ne tiendra pas son engagement à lever véritablement ses sanctions, c'est ça? Vous êtes méfiant?
Oui, je suis tout à fait méfiant par rapport à l'approche de la CEDEAO sur la crise malienne. Comme je le dis au Standard, la CEDEAO doit aujourd'hui quitter définitivement le rôle de médecin après la mort. Chaque fois qu'il y a des crises dans le pays, elle les ferme. Et quand les peuples prennent leur destin en main, après elles viennent avec des solutions qui ne sont pas tout à fait adaptées aux attentes du peuple.
Mmh. Vous voudriez que la CEDEAO soit plus présente en amont des coups d'État et peut-être un peu moins après dans la gestion de la transition?
Tout à fait. Parce que tous les ingrédients qui président à la déstabilisation des États, la CEDEAO a tous ces éléments, c'est à travers les ambassades, à travers leurs représentations dans tous les pays de la CEDEAO. Mais elle les fait. Chaque fois que le peuple s'assume, sort des sentiers battus, après c'est des sanctions qui tombent et c'est le peuple qui...
Mmh. Alors Fousseini, on va accueillir, si vous le voulez bien, Issouf qui est à Bamako. Bonjour Issouf.
Bonjour RFI.
Soyez le bienvenu. Vous comprenez, vous, l'attitude prudente de la CEDEAO? Pourquoi?
Et voilà, je prends l'attitude prudente de la CEDEAO, contrairement au confrère là qui est en ligne tout à l'heure. Je dirais que la CEDEAO a été au chevet du Mali en amont et même en aval également, parce que je rappelle que Goodluck Jonathan était là bien avant que la situation ne soit empirée, au moment que Ibeka était encore président de la République. Mm-hmm. Donc la CEDEAO est dans son rôle, elle joue bien son rôle. Il faudrait que les gens comprennent que nous ne sommes plus en années 60 ni en années 70, nous sommes en 2020. Il y a ces principes-là qui fonctionnent. Quand un président est là démocratiquement élu, vous ne pouvez l'arracher de son fauteuil tant que son mandat n'est pas terminé. Et quand vous vous mettez dans cette logique-là, la CEDEAO met des garde-fous, c'est normal. Et même jusque-là, les sanctions, on ne peut pas les lever. Je n'ai rien contre la CEDEAO, je suis malien, je veux le bonheur du malien. Mmh. Mais je sais que la CEDEAO a besoin d'être rassurée.
Ouais. Alors justement, précisément, Issouf, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui, d'après vous, pour que ces sanctions soient levées? En quoi les militaires n'ont-ils pas répondu aux demandes de l'organisation ouest-africaine?
Et d'abord, au départ, voilà, on parlait des compétences également du premier vice-président. Donc, ce week-end dernier, cela a été en tout cas précisé. Mais qu'est-ce que les Maliens attendent maintenant? Un gouvernement d'union nationale. Mais ce que je vous dis dans les coulisses, ils sont pas prêts à faire un gouvernement d'union nationale. Ils veulent un gouvernement purement technocrate complétée par les militaires. Et là, ça ne peut en aucune manière passer. Dans l'expérience du Mali, les technocrates ont tout le temps échoué dans la gestion d'un gouvernement. Mmh. Donc, s'ils veulent mettre un gouvernement en place sans les partis politiques, moi, je dirais que le Mali courage, c'est-à-dire le nouveau Mali dont on aspire, ne verra jamais les jours. Donc la CEDEAO, c'est bel et bien, il y a encore un guiche sous roche. Donc il faudrait que les choses soient clarifiées. La nomination d'un Premier ministre ne peut pas facilement lever la sanction. Il faut un gouvernement de large ouverture et que chacun prenne part. Autre
donc
point
pour
également...
vous, donc pour vous, pardonnez-moi pour bien comprendre, pas de lever des sanctions tant qu'on ne connaît pas la composition du nouveau gouvernement, c'est ça? Et les équilibres au sein de ce gouvernement?
Parce que la reconnaissance nationale, il faudrait que tous les Maliens se reconnaissent dans ce gouvernement. Mmh. Et cette reconnaissance-là, vous savez que le président a été élu, disons désigné, son vice-président, le Premier ministre également. Vous avez entendu les coulisses ici et là. Donc la seule unanimité que les Maliens attendent, ça c'est la composition de ce gouvernement. Mmh. Sans parler de l'organe législatif aussi. Quelle figure va-t-elle avoir, puisqu'on parle de 121 députés qui seront choisis.
Le Conseil national de la transition, effectivement. Merci beaucoup, Issouf, de nous avoir appelé de Bamako. Bonjour, Youba.
Bonjour, Nathalie.
Alors, vous vous dites révolté que les sanctions ne soient toujours pas levées.
Absolument. Et pour répondre un peu à mon frère Youssouf qui vient de parler, je me demande de quel Mali il parle. Mais moi, je vais rester simplement sur le cas de la CEDEAO en disant que cette attitude désinvolte, cette attitude condescendante ne nous convient pas du tout. Cette façon de lire la démocratie, où était la CEDEAO lorsque Alassane Ouattara imposait sa troisième candidature à la Côte d'Ivoire? Où est la CEDEAO lorsque M. Condé, Alpha Condé, impose sa figure, son troisième mandat à la Guinée? La démocratie, c'est la dictature des peuples. Ce n'est pas le bon vouloir d'un club d'amis de président.
Donc pour vous, on met beaucoup trop en ce moment la pression sur le Mali et pas assez peut-être sur d'autres pays de la sous-région, c'est ça ce que vous venez de citer?
Absolument, ils ont à la CEDEAO, ces gens-là ont une façon très particulière, très sélective de vivre la démocratie.
Mais par exemple, pourquoi ne pas avoir dissous le CNSP? Ça aussi, c'était peut-être une des conditions pour une des garanties pour un retour apaisé à un pouvoir civil.
Madame, je vais vous dire, le Mali est un État indépendant et souverain. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir nous dire ce que nous voulons, ce qui est bien pour nous. Je vais vous dire une chose, madame. Il n'y a pas d'institut de sondage au Mali. Mais venez traîner vos micros dans les rues de Bamako ou un peu partout dans les capitales de nos régions. Vous verrez très bien qu'aujourd'hui, la population malienne veut bien aller avec ces militaires-là, en tout cas ils sont neufs, on les accorde le bénéfice du doute et on ne veut plus qu'on nous impose des délinquants au col blanc qui, sous le couvert de la démocratie, viennent piétiner notre peuple.
Merci Youba de nous avoir appelé. On retrouve Aliou qui est aussi dans la capitale malienne. Bonjour Aliou.
Bonjour.
Alors vous avez une position intermédiaire, on va dire. Vous dites il faut lever les sanctions, mais il faut être vigilant.
Moi, je pense que voilà, il faut lever les sanctions et il faut être vigilant. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais économiser de mes prédécesseurs, les militaires ont déçu par deux actes. Là, d'abord, j'ai vu que le fait que la population avait pensé à un moment qu'ils doivent faire le reste du mandat de Ibeka, ils ont eu moins au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une situation de méfiance. Et j'ai eu peur aussi la dernière fois, lorsque le président a fait son discours, les gens ont applaudi. Moi, je n'applaudis personne. Je veux les voir à l'épreuve. La dernière fois, il était sous ordre. On dit que c'est un homme de poigne. Moi, je préfère le voir à l'épreuve. Ainsi que le nouveau Premier ministre. Donc la CEDEAO peut lever les sanctions parce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de ça, mais être toujours là en train de veiller, je pense que c'est l'élément fondamental. Mmh. Et on veut réellement pouvoir, c'est la composition du gouvernement aujourd'hui qui va nous permettre de dire réellement si c'est un gouvernement de mission ou pas. Je préfère ne pas les juger.
Ouais,
je préfère
Aliou,
avoir les hommes à l'épreuve.
Ouais, Aliou, vous disiez au Standard que ces sanctions, finalement, bien c'est le peuple malien qui en est la principale victime et qu'il en bave. C'est l'expression que vous aviez employée.
Par les échanges économiques, c'est le peuple qui en bat.
Effectivement.
Donc je pense qu'aujourd'hui la CEDEAO doit lever la sanction, mais elle reste toujours en train de veiller. Je pense que en si peu de temps, ils ont fait déverrouiller certaines sanctions. Donc, je pense qu'ils peuvent toujours le faire.
Alors,
si on ne satisfait pas à la déléance, on réagit.
On peut rappeler qu'il n'y a ni trafic aérien, ni trafic terrestre entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO. Pas d'échanges financiers et commerciaux avec les pays voisins. Les denrées de première nécessité, le sucre, le riz, etc., les céréales ont été sorties de ces sanctions. Mais il y a malgré tout des conséquences. On va d'ailleurs joindre tout de suite Robert qui est à Koutiala. Bonjour Robert.
Bonjour Nathalie et bonjour à toute l'équipe à la capsule à la qualité.
Vous avez expérimenté très concrètement les conséquences de cet embargo?
Justement, c'est vrai que la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui souffre dans son ensemble. On ne pense pas du tout à faire en sorte que le peuple malien puisse s'en sortir de cette situation. On ne fait que maintenir les sanctions contre le peuple.
Mais vous concrètement, comment est-ce que ça vous a affecté ce maintien des sanctions de la CEDEAO?
Aujourd'hui, moi je suis un ancien. Aujourd'hui, la plupart des anciens ont des retards de salaire. L'État n'arrive plus à payer correctement les salaires à temps. Et même certains collègues sont même allés en arrêt de travail parce qu'ils n'ont pas perçu leur salaire encore. Tout ça est dû aux sanctions que la CEDEAO a infligées au Mali. Moi, je me pose la question, pourquoi la CEDEAO s'acharne sur le Mali? Pourquoi elle s'acharne sur le Mali? C'est parce que, justement, elle veut éviter l'effet domino. Mm-hmm. Au lieu de penser au peuple, les chefs d'État pensent à leur propre cas, en vouloir étouffer le Mali, étouffer la junte, pour que, effectivement, les autres pays ou les autres d'autres personnes n'aient pas de velléité, vouloir passer par un coup de force afin d'apporter un changement de leur pays.
Alors Robert, vous parliez des conséquences sur les salaires. Il y en a d'autres, notamment pour les industriels qui ne peuvent pas faire entrer des produits manufacturés, les agriculteurs qui ne peuvent plus exporter les denrées. Juste ce chiffre, on va pas se noyer dans les chiffres, mais en août, les exportations de céréales, donc au départ du Mali, ont diminué de moitié par rapport à la même période de 2019. C'était plus de 1400 tonnes en 2019 et 813 là en 2020, conséquences très concrètes donc et manque à gagner évidemment pour tous ces agriculteurs qui ne peuvent pas exporter les denrées. Mama, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous expérimentez à Bamako les conséquences pratiques de ces sanctions de la CEDEAO. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. J'aborde dans le même sens que ce que vous venez de dire, Actuellement, sur le marché malien, il y a pas mal de produits qui manquent. Et certains produits qui existent, les prix ont flambé. Et les transactions financières aujourd'hui sont totalement limitées. Et donc, ce qui fait que même les banques ont des difficultés pour pouvoir opérer dans la sous-région, dans la zone UMOA. Et donc, l'économie malienne est en train d'être étouffée.
C'est le secteur dans lequel vous travaillez, Mama.
Fait. Donc aujourd'hui, les activités bancaires sont totalement limitées que sur la place malienne. Donc les banques aujourd'hui ne peuvent pas travailler avec les banques de la sous-région de l'UMOA. Donc ce qui limite totalement le volume des opérations et qui joue énormément sur le système bancaire malien actuellement.
Donc pour vous, il y a urgence à lever ces sanctions de la CEDEAO, même si il reste encore quelques points d'interrogation, comme on le disait tout à l'heure, par exemple la composition du gouvernement, le fonctionnement du Conseil national de la transition.
Oui, je suis tout à fait d'accord, madame. Je pense qu'il y a eu quand même des efforts de la part de la junte. Ces efforts sont à saluer, bien que tout n'est pas parfait, parce qu'il y a encore des zones d'ombre en reste, qui reste encore à éclaircir. Mais je pense que, étant donné que la situation est très difficile pour le pays, il est tout à fait urgent et imminent. Et nous osons espérer que dans la semaine, la CEDEAO va lever les sanctions et tout en essayant de suivre de très près l'évolution des points qui restent en suspens pour que l'économie puisse redémarrer de façon normale.
Justement, quels doivent être pour vous les chantiers prioritaires?
Le chantier prioritaire, va être directement la révision du code électoral, les réformes en fait règles institutionnelles et la lutte contre la corruption. Tout ne peut pas se faire à la fois, surtout la révision du code électoral, parce que tout est parti de ce problème de manque de transparence et en même temps les dossiers de corruption qui sont en instance. Il faut que tout soit traité avec diligence et sans aucune implication de qui que ce soit.
Merci.
C'est extrêmement important pour la suite. Merci, madame.
Merci, Mama, de nous avoir appelé ce matin de la capitale malienne, direction Sikasso, à présent, où se trouve Kassim. Bonjour, Kassim.
Oui, bonjour, bonjour.
Vous allez, vous, clairement, contre la position de la CEDEAO. Vous dites qu'elle prend en otage les Maliens.
Tout à fait, madame. Je suis contre la position de la CEDEAO. D'autant plus que la CEDEAO essaie de tirer un peu, essaie de faire assez de pression sur le peuple malien. Parce qu'à l'état actuel des choses, moi je pense que la jeune a fait assez d'efforts. Donc c'est à la CEDEAO maintenant de voir ce dispositif et puis voir et de lever les sanctions si possible.
Et donc vous avez, vous, parfaitement confiance dans le dispositif de la transition tel qu'il se présente aujourd'hui, même avant de connaître la composition du gouvernement, la proportion de civils et de militaires au sein de cette équipe, vous avez confiance?
Bon, on peut pas tout prédire, mais pour le moment quand même, nous restons confiance quant à la composition de ce gouvernement-là.
Allez-y, je vous en prie. On me parlait en même temps dans le casque, donc j'ai voilà. Allez-y, terminez.
D'accord. Je ne sais pas ce que la CEDEAO attend de la jeune militaire quand même, parce que au départ la CEDEAO demandait la nomination d'un président civil. Le président a été nommé. Et puis aussi le premier ministre a été mis en place. Donc moi je pense qu'il est temps pour la CEDEAO aussi de faire autant d'efforts.
On a compris. On va accueillir un dernier auditeur, Oumar, qui est avec nous en ligne de Bamako. Bonjour Oumar.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous les résultats de Rafi.
Alors quelle est votre position, vous, dans ce débat? Lever ou pas des sanctions? Est-ce que la CEDEAO a raison de maintenir la pression, de prendre des précautions avant d'annoncer cette levée des sanctions?
Je ne comprends pas l'attitude de la CEDEAO. Je suis même en colère contre cette CEDEAO, je dirais, ce syndicat des chefs d'État de la sous-région. Elle n'a aucune raison de maintenir ces sanctions, dans la mesure où ces revendications ont été respectées. C'est-à-dire, primo, la CEDEAO, elle avait demandé un président civil et non militaire, chose faite. Secondo,
c'est Bandao, effectivement.
Oui, secondo, un premier ministre civil, et ça a été fait. Et en troisième lieu, elle avait demandé de revoir un peu la charte de la transition, cette chose que le CNSP a fait, donc dans la charte modifiée, le colonel Goïta ne pourra plus remplacer le président en cas d'empêchement ou de vacances. Donc maintenir cette sanction ne se justifie plus. Nathalie.
Donc pour vous, il est temps de lever ces sanctions. Est-ce que vous, très personnellement, Oumar, vous en avez vu la traduction concrète de ces sanctions dans votre vie quotidienne?
Oui, les banques ne parviennent pas à satisfaire ses clients. Et puis les salariés aussi, les employeurs ont de la peine à payer ses employés.
Donc des soucis pour...
Je pense que ça ne sert à rien vraiment de faire souffrir ce peuple qui a tant souffert depuis 2012. Elle doit aider vraiment ce peuple à se relever et non à le tuer à un petit feu.
Alors effectivement, mais peut-être serez-vous exaucé dans les prochaines heures d'ailleurs, Oumar, on ne sait pas, puisque j'expliquais tout à l'heure que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, s'est déplacé à Accra, au Ghana, pour rencontrer le président en exercice de l'organisation et peut-être enlever cette décision de lever des sanctions. Vous l'espérez, vous, dans les prochaines heures?
C'est ce qu'on espère.
Mais
maintenir cette sanction n'a aucune raison, Nathalie.
Merci beaucoup, en tout cas, Oumar, de nous avoir appelé ce matin de Bamako, et on suivra effectivement les derniers développements de la situation au Mali dans nos éditions, notamment tout à l'heure dans Afrique Midi avec Amélie Tulé. On reviendra également sur ces libérations de djihadistes présumés. On en parlait dans le dernier journal sur RFI. Merci à tous de nous avoir appelé ce matin. Merci à Alexis Levavasseur et Michael Verne qui étaient à la réalisation. Demain, c'est le retour de Juan Gomez. Vous débattrez ensemble du Burkina Faso. 23 dossiers de candidature déposés à la commission électorale en vue de la présidentielle de novembre. Roch-Marc Christian Caboret, le président sortant, l'opposant Zéphirin Diabré, mais aussi des représentants de l'ex-parti au pouvoir, le CDP de Blaise.